Frères et sœurs bien-aimés, c'est dans la joie que nous nous retrouvons en notre église d'Esther pour honorer, non pas au lendemain de la Nativité qui ne nous réunirait guère nombreux, mais en ce mois d'été pour honorer Saint Étienne, le premier chrétien à avoir offert sa vie ensuite du sacrifice de notre Seigneur Jésus le Christ. Saint Jean-Baptiste l'a précédé dans sa décollection, dans son martyre, et Saint Étienne fut le premier, lapidé en haine de la foi, alors qu'il annonçait la bonne nouvelle du Seigneur mort et ressuscité. En honorant Saint Étienne, nous lui demandons non seulement de bénir et de protéger notre village d'Esther, cette terre, ses habitants, d'avoir grand souci d'intercéder pour nos malades, porteurs de handicap et convalescents, et nous lui confions, comme notre intercesseur particulier, tous ceux qui en cette terre d'Esther reposent, attendant du dernier jour la résurrection de la chair. En ces temps troublés pour la France, le monde et même l'Église, nous l'invoquons aux côtés de Notre-Dame pour qu'advienne la paix. Nous lui demandons, lui, le premier martyr chrétien, d'avoir grand souci de tous ces chrétiens persécutés de par le monde et dont on parle si peu ou si timidement, de tous ceux qui, en haine de la foi, eh bien, meurent à la suite du Seigneur, le premier et le roi des martyrs. Pour notre terre ensanglantée de France, c'était un grand mystère que le père Hamel, égorgé au pied de l'autel par ses kamikazes, le fut dans une église dédiée à Saint-Étienne. Alors, nous confions à Saint-Étienne cette foi reçue du Seigneur, pour nous, peuple de Bigorre, reçue de la prédication de Saint-Justin que nous appelons en ce pays de Cerse, car c'est là qu'il est venu se réfugier lorsque notre ville de Tarbes fut en proie aux barbares et aux barbaries. Nous lui prions pour que la foi de nos aïeux nous fasse vivre encore aujourd'hui, nous qui vivons du Seigneur mort et ressuscité. Dans l'évangile de ce dimanche, nous poursuivons notre méditation du 6e chapitre de l'évangile selon saint Jean. Dimanche dernier, nous avons assisté à la multiplication des pains. Le Seigneur se fait reconnaître comme le Messie. Le Messie devait rendre la vue aux aveugles, la mobilité aux paralysés, la parole aux muets, l'audition aux sourds. Et il devait nourrir son peuple. Voilà que devant une foule immense, alors qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons, l'acte de foi des apôtres et des disciples a été grand. Ils ont commencé à partager les pains dans ces paniers, mais qu'était-ce pour une foule si grande? Et il y eut, suite à cette multiplication miraculeuse, de nombreux paniers de pain en surplus. C'est l'image de cette bonté providente de Dieu. Pour être sauvés, nous devons croire en notre Seigneur Jésus le Christ, mais croire tout autant que Dieu, en qui nous plaçons notre foi, c'est-à-dire cette confiance, est provident. Il pourvoit à nos besoins. C'est ce que le Dieu Messie vient de manifester en nourrissant cette foule pour laquelle il a eu un regard de compassion. Ils sont comme des brebis sans berger. Le Seigneur leur a enseigné la vérité de l'Évangile, la vérité sur l'homme, la vérité sur Dieu. Et voilà que cette foule, ensuite de cette multiplication des pains, s'est dit qu'il serait bien commode d'en faire un roi. C'est presque un roi à la manière française. Nous n'aurions pas besoin de travailler et voilà que le pain tomberait du ciel. Idéal comme providence. Et voilà que le Seigneur réussit à s'échapper. Et nous ouvrons notre évangile ce dimanche. Cette foule qui est assoiffée des paroles de vie qui sortent de la bouche du Seigneur, est également assoiffée d'un peu trop de miraculeux. Dans l'évangile selon saint Jean, il est un mot que le disciple bien-aimé s'interdit, c'est celui de miracle. Sans doute a-t-il constaté que plus le Seigneur accomplit de miracles, et moins cela conduit à la foi. Parce que la tentation est grande d'en rester au miracle pour le miracle, au prodige pour le prodige. Mais le Seigneur n'accomplit ses signes. C'est ainsi que saint Jean parle de toutes ces actions du Seigneur. Ces signes sont des miracles à interpréter qui portent celle de la déclaration de foi. Qui est-il donc pour agir avec autant d'autorité? Qui est-il donc lors de la tempête pour que même le vent et la mer lui obéissent? Qui est-il donc pour rendre la vue à un aveugle, la mobilité au paralysé? Lève-toi, prends ton brancard et marche. Et aussitôt, le malade se leva. Les signes que pose le Seigneur sont à interpréter. Ils sont là pour qu'on le reconnaisse comme le Messie. Mais comme l'affirmera saint Pierre, il y a bien plus que le Messie en notre Seigneur Jésus le Christ. Le Messie, c'est celui qui devait être envoyé par Dieu pour venir nous sauver. Celui qui avait reçu l'onction sainte, être envoyé par Dieu à la manière des prophètes, à la manière des rois d'Israël ou des prêtres qui agissent au Temple Saint de Jérusalem. La profession de foi de l'apôtre Pierre, qui est celle de l'Église, reconnaît « Vous êtes le Christ » en grec, le Messie en hébreu. Mais elle va plus loin. « Vous êtes le Fils du Dieu vivant ». C'est bien le Fils du Dieu vivant, Dieu lui-même, qui vient à notre secours. Dans l'humanité du Seigneur se tient cachée sa divinité, de telle sorte qu'il peut accomplir en Créateur un certain nombre de miracles, de signes, dirait saint Jean, qui pose la question de son identité. Le Seigneur ne se présente pas, comme il le fera au dernier jour, sous les traits glorieux de sa divinité, car il veut tout d'abord, en Dieu d'amour, comme condition préalable à la foi, la liberté, la libre réponse de l'homme et de la femme créée à son image et à sa ressemblance, la libre réponse de la foi, car l'amour suppose la liberté et il est dans la nature de l'amour de se donner. Le Seigneur se donne par amour pour nous, pécheurs, sur le bois de la croix, et à sa suite, saint Étienne s'est offert, reprenant, comme le roi martyr, les mêmes paroles du Seigneur en croix. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce Dieu d'amour qui se présente dans l'Évangile comme le pain de vie. Au jour de la Nativité, un jour avant d'honorer avec toute l'Église saint Étienne, nous contemplons le Seigneur dans son incarnation qui repose à Bethléem dans une mangeoire. Mais tout cela est à décoder, à décrypter. Bethléem, c'est la ville des pains. Et celui qui se présente dans l'Évangile comme le pain vivant qui descend du ciel repose dans une mangeoire. C'est déjà l'image de ce sacrifice du Christ qui, pour nous faire passer en vie éternelle, de la mort à la vie, se présente à nos âmes comme le pain vivant, le pain qui donne vie. Du pain, nous en mangeons en France, un béret, une baguette, voilà le français. Mais le pain vivant, le pain de vie, nous réunit en cette église, nous réunit chaque dimanche. C'est d'ailleurs cette quatrième demande que le Seigneur a placée au cœur du Pater Noster. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donnez-nous aujourd'hui, Père qui êtes aux cieux, le pain qui donne la vie. Nous demandons au cœur du Notre Père non seulement le pain pour nourrir nos corps, notre pain quotidien, celui qui doit refaire les forces physiques de notre corps, mais nous demandons dans cette prière le pain de ce jour-là, celui du jour de Dieu, de l'éternité, le pain de vie, notre Seigneur Jésus le Christ. À l'autel, en votre nom, peuple de baptisés, voilà que le prêtre demande et presque ordonne à Dieu le Père. de nous donner son Fils. Comment cela va-t-il se faire ? S'interrogeait déjà Notre-Dame au jour de l'Annonciation. Par Dieu le Saint-Esprit. Le prêtre à l'autel du Seigneur demande à ce Père très aimant de nous donner son Fils par Dieu le Saint-Esprit qui nous le porte. Et en recevant ce pain de vie dans la Sainte Communion, voilà que le Seigneur descend dans notre crèche intérieure et nous l'adorons avec nos pauvretés comme les bergers au jour de la Nativité. Nous l'adorons avec les mages, avec les richesses de notre intelligence et de nos bonnes œuvres. C'est ainsi que nous œuvrons aux œuvres de Dieu. Lorsque nous offrons tout pour la plus grande gloire de Dieu, c'est là, dans cette transcendance, que l'homme manifeste sa dignité. Aucune civilisation ni société ne peut subsister bien longtemps sans affirmer qu'elle se reçoit de Dieu et qu'elle retourne à Dieu. Cette œuvre de Dieu, notre civilisation jadis chrétienne, l'avait manifestée. Il s'agissait d'aimer Dieu et de manifester cet amour de Dieu dans l'amour du prochain. Les œuvres de Dieu dont le Seigneur parle dans l'Évangile, c'est d'abord cette première œuvre qui est celle de la foi, la seconde, celle de l'espérance, et la troisième, celle de la charité, la plus grande des trois, qui embrase le cœur des fidèles et de tous les saints. Comment travailler aux œuvres de Dieu ? Le Seigneur l'affirme dans l'Évangile. J'étais nu, j'avais faim, j'avais soif, j'étais en prison, malade. Vous m'avez donné un vêtement, vous m'avez donné à manger, à boire. Et les apôtres étonnés, ne se souvenant ni d'avoir été visiter le Seigneur en prison, ni même l'avoir vu nu, lui demandent : mais quand donc, Seigneur ? Chaque fois que vous l'avez fait à ses plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà ce qu'était la pierre d'angle de notre civilisation, l'amour de Dieu qui manifestait l'amour du prochain dans cette recherche, non pas individualiste, mais dans cette recherche du bien commun. Et Dieu n'est autre que le bien commun de tout l'univers, son commencement, son terme et ce bonheur sans fin que nous goûtons déjà en le recevant dans la Sainte Communion. Puisse donc la Bienheureuse Vierge Marie, la Reine du Ciel, qui en cette si belle statue de Notre-Dame d'Esther nous présente son Fils, nous aider comme elle à garder et méditer chaque jour les événements de la vie du Seigneur, à demander humblement le pardon de nos fautes pour recevoir ce Dieu d'amour et de vérité qui refait nos forces et qui vient alors nourrir nos âmes pour la vie éternelle. Ainsi soit-il.